Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 4 novembre. Nous reviendrons sur les violences urbaines qui ont eu lieu à Givors, Rieux et Saint-Fons ce week-end. Après les inondations d'il y a 15 jours, à Givors, seuls quelques magasins ont pu rouvrir. La ville de Lyon organise aujourd'hui les assises du commerce et de l'artisanat dans les salons de l'hôtel de ville. En attendant les enseignements de ces assises lyonnaises, je vous propose un coup de projecteur sur un quartier de Villeurbanne, le quartier du Cours Tolstoï, où le commerce a repris des couleurs.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 12 individus, dont des mineurs, ont été interpellés entre jeudi et dimanche à Givors, Rieux et Saint-Fons, des communes qui ont connu des violences ce week-end. Les incidents les plus graves ont eu lieu à Rieux, où deux bus TCL ont été incendiés. Deux bus de la ligne C5 qui ont été pris pour cible par un groupe de délinquants encagoulés. Bruno Bernard, le président du Citral, a salué le professionnalisme exemplaire dont ont fait preuve les conducteurs en sécurisant et en mettant à l'abri les usagers qui se trouvaient à bord des véhicules. Les lignes C2, C5, S8 et 33 ne desservent plus la ville nouvelle jusqu'au 11 novembre. Les réactions ont été nombreuses après ces violences. Les parents doivent assumer leurs responsabilités, sinon expulsion du parc social et fin des aides municipales. Ce ne sont pas des jeunes qui ont mis le feu à ces bus, mais des voyous, des délinquants, a commenté le maire Alexandre Vincendet. Je condamne les actes de violence qui ont touché Rieux-la-Pape, réagit pour sa part sur X le député Abdelkader Lamar. Notre priorité est de rétablir la sérénité et la sécurité pour tous, dit-il. À Givors et Grigny, deux incendiaires ont été interpellés et quatre à Saint-Fons. L'axe Lyon-Saint-Étienne, la circulation des trains reprend ce lundi, mais des retards sont à prévoir. La vitesse est normale sur la voie 2 dans le sens Givors-Saint-Étienne, mais par mesure de sécurité, elle est ralentie sur la voie 1, donc dans le sens Saint-Étienne-Givors. Un retour à la normale est prévu vers le 19 novembre. À Givors-Deux-Vallées, la plupart des magasins sinistrés sont toujours fermés sans indication de date de réouverture. Et ce 15 jours après les inondations qui ont balayé la vallée du Gier, seuls Castorama et quelques magasins d'Arty, La Grande Récré ou Gémeaux ont pu rouvrir après un nettoyage intensif. Certains magasins de prêt-à-porter dont les collections automne-hiver ont été détruites ne pourraient rouvrir qu'au début de l'année 2025.
Lyon Demain, idée en partage.
La ville de Lyon organise aujourd'hui les assises du commerce et de l'artisanat dans les salons de l'hôtel de ville. L'objectif est de bâtir des propositions concrètes avec les commerçants et artisans pour booster le dynamisme commercial sur le territoire. Ces assises visent à réunir tous les acteurs et consolider le dialogue autour des différents projets mis en place par la ville et la métropole. Les commerçants de la presqu'île s'inquiètent notamment du développement de chaînes nationales de fast-food, phénomène entre autres lié à la hausse des loyers pour les locaux commerciaux dans ce secteur. En attendant les enseignements de ces assises lyonnaises, je vous propose un coup de projecteur sur un quartier de Villeurbanne. À Villeurbanne, le Cours Tolstoï était réputé pour sa désertification commerciale. Depuis des années, de nombreuses boutiques avaient baissé le rideau, laissant la place à de la restauration rapide type kebab. Mais depuis quelques années, la tendance s'est renversée grâce à la fabrique Tolstoï. Un projet ambitieux mené par la société villeurbanaise d'urbanisme et visant à revitaliser les pas de porte. Ce contrat de revitalisation artisanale et commerciale pour objectif de dynamiser le quartier en favorisant l'implantation d'artisans et de commerces de proximité. L'idée est de transformer des locaux commerciaux vacants en ateliers et boutiques pour des artisans créatifs. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont lancé un projet dans le cadre de ces dispositifs. Intensica au 68 Cours Tolstoï est une pâtisserie inclusive et participative qui propose des gâteaux originaux et délicieux. Nous y avons croisé Anan Arfaoui.
Personnellement, je vois vraiment des opportunités. Déjà, je suis la seule à proposer des ateliers de pâtisserie à Villeurbanne. Le Cours Tolstoï, il fait pratiquement 2 km. Il y a la ligne C3 qui passe de manière continue et qui, donc, ça m'apporte également beaucoup de visibilité, sachant que, voilà, on voit l'enseigne, on voit mon gâteau de mariage, mon faux gâteau de mariage qui est à l'extérieur. Donc, moi, je vois énormément de visibilité, d'opportunités. Il y a des commerces qui se développent. Donc, moi, je vois plus d'opportunités que des choses négatives, en fait, sur ce cours.
Et ça, c'était un local qui n'était plus utilisé, je crois, hein, qui était un petit peu à l'abandon. Comment ça s'est passé pour le revitaliser et pour installer votre activité? Comment vous avez été aidé?
Donc, j'ai été aidé par la SVU, la Société Villeurbanaise d'Urbanisme. Ils ont mis en place, en fait, le curage et ils ont pris en charge également la menuiserie. Par contre, après tous les travaux de rafraîchissement, ils ont été pris en charge par moi-même. Et donc, ce qui m'a permis d'être aux normes en termes d'hygiène alimentaire.
Lisa Briel, céramiste, son atelier Anaka est situé au 115 Cours Tolstoï.
Ça fait longtemps que j'avais envie de m'installer dans le coin, puisque je suis aussi villeurbanaise, et c'était important pour moi d'ouvrir un lieu qui soit joli, où on se sente bien, pour faire de la céramique à Villeurbanne, parce qu'en plus, il n'y avait pas d'offre de cours et de stages de céramique dans le coin. Donc, je me suis formée à la céramique chez des potiers, dans le Pila et à Lyon. Ça m'a permis d'ouvrir cet atelier. Donc, cet atelier, il s'adresse à tous, les débutants, les confirmés. Je propose des cours de tournage et de modelage, qui sont un peu les deux grandes familles de pratique de la céramique. Des stages aussi, donc les stages un peu plus intensifs, soit sur le temps d'un week-end ou le temps d'une semaine pendant les vacances scolaires.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici, sur ce cours Tolstoï, qui jusque-là n'était quand même pas très attractif?
Alors moi, j'ai habité au Totem, donc vraiment au début du cours, et j'ai vraiment vu le quartier changer aussi ces dernières années, avec quand même de nouveaux commerces qui s'installaient, une population très mixte. Donc c'est un cours qui vit un peu tout le temps, et on sent que ça a été une grande avenue avec un peu du standing il y a longtemps et qui a besoin d'être redoré. On est à 10 minutes à pied des gratte-ciel. Avec le C3, on est à 10 minutes des Cordeliers. Donc voilà, il y a vraiment, j'ai envie de dire, un emplacement qui est super intéressant. Et comme j'habite dans le coin, voilà, c'était important pour moi de participer à la renaissance du cours, on va dire.
Et la fabrique Tolstoï vous a fait un pont en or, comme on dit, ou...
Non, je dirais pas un pont en or. En fait, on a des loyers qui sont fixés sur le prix du marché. Ça, c'est aussi un parti pris de leur part de ne pas aider trop les artisans, parce qu'après, le jour où c'est repris par un privé, bah, nous, on s'écroule. Donc, on a quand même un prix du marché au niveau du loyer. Après, on a des franchises de loyer au démarrage pour nous laisser le temps de faire les travaux, etc. Parce qu'on est arrivé dans un local qui était une boîte vide. Hein, donc, on a quand même eu des travaux à faire, d'électricité, de peinture, etc. Mais on sent qu'on est aussi un petit peu soutenu par la collectivité et que ça va nous faire un réseau, en fait, d'autres artisans avec qui on va pouvoir travailler. Et ça, au quotidien, quand on est artisan, qu'on est tout seul dans sa boutique, d'avoir des collègues un peu à droite à gauche, bah, c'est super.
Au 137 bis, Clément Barillot est à l'origine d'Atelier Transfo. Cette micro-entreprise fait revivre d'anciens objets et les transforme en décoration.
Atelier Transfo, c'est une petite micro-entreprise qui reprend des anciens objets. Donc là, en l'occurrence, des téléphones Socotel, ce qui est l'objet qui a le plus marché, quoi. L'idée, c'est de faire revivre les anciens trucs, donc les choses qui partent à la poubelle. Le S63, il y en a d'autres. Hein. Il y a le U40 en bac élite. Il y en a plein qui existent. Là, tous les gens les ont jetés, donc c'est assez facile de les récupérer. C'est la petite occasion pour faire revivre un objet en fait qui est beau en décoration chez soi, qui peut être ludique et devenir un jukebox. Donc vous tapez l'année de naissance entre 1940 et aujourd'hui. Donc ça va même jusqu'en 2040. Donc j'ai repris donc les mêmes sonneries. Vous avez la musique d'attente, la musique d'acheminement. Et erreur si vous êtes trompé. Et au bout du fil, vous n'avez pas une personne, mais vous avez la musique de cette année-là. Il y en a plusieurs par année, ça l'a choisi aléatoirement. Donc on n'est pas à plein temps ici, on a tous un métier à côté. On se croise assez souvent, mais on n'est jamais les quatre en même temps dans les locaux. Ça qui est bien, c'est qu'on a, on a quand même de l'espace avec une belle cour. La colocation se passe bien, c'est plutôt agréable. La fabrique Tolstoï, moi c'était super pour moi, hein. C'était une super opportunité. Je cherchais ça, donc c'est un peu tombé comme ça, des nues. Il y a plein de gens qui s'arrêtent, on a une petite boîte à livres devant. C'est super pour les gens sont curieux. Ils viennent assez souvent, on essaie d'avoir un jour ou deux jours par semaine chacun, histoire de vraiment occuper les lieux, montrer qu'il y a du monde, proposer aussi les ateliers. Les gens sont intéressés de fabriquer par exemple des téléphones et puis d'avoir des cours de couture juste à côté. Il y a de l'illustration aussi que Vanessa fait.
Alix Liéger est quant à elle céramiste. Elle a investi avec d'autres artisans l'atelier du 142 cours Tolstoï.
On est trois métiers différents, trois corps d'état. Il y a la céramique que je représente. Il y a Stéphanie Quenette qui fait de la tapisserie d'ameublement et Mélanie Fauché qui fait du vitrail. On est toutes les trois artisanes, trois amies également dans la vie. Moi, je suis tout de suite tombée amoureuse de cet atelier déjà par le volume qu'il y a, cet aspect très brut où on voit qu'il s'est passé des choses ici, il y a eu de l'histoire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a laissé les murs dans cet état. En même temps, ça rappelle le côté atelier, voilà, le travail.
Quels ont été les moyens incitatifs pour faire venir, de la part de la SAU par exemple?
Leur gentillesse, ça paraît bête, mais sincèrement, c'est pas tous les jours en fait, surtout quand on visite des ateliers, d'avoir un vrai lien humain en fait avec votre bailleur. Et en même temps, c'est vrai que comme cet atelier appartient entre guillemets à la mairie, donc à la SVU, le loyer est aussi attractif. Ça permet d'avoir vraiment la surface dont on avait besoin à un prix qui nous permet de payer, parce que quand on est artisan, malheureusement on ne roule pas sur l'or. Et donc ça a beaucoup joué. Et après, sinon, moi j'ai adoré ces grandes vitrines, avoir beaucoup de lumière qui rentre dans l'atelier où on n'a pas besoin d'allumer les lumières pour y voir quelque chose. Moi je trouve ça très beau, et surtout en plus que les gens puissent voir. Moi j'ai vraiment mis mes établis au bord de la fenêtre pour qu'on regarde, que ça incite les curieux à regarder ce que c'est l'artisanat et comment ça marche.
Grégory Laurent est chef d'entreprise. Son entreprise s'appelle Les Étains de Lyon. Il est installé, lui, dans le quartier Saint-Jean, mais il est aussi élu à la Chambre des métiers du Rhône et il voit dans ce projet une belle vitrine pour le renouveau de l'artisanat.
Je trouve ça super de pouvoir remettre l'artisanat dans les centres-villes parce que ça va redynamiser aussi la vie collective et la vie associative. Les gens qui habitent ici ne seront plus dans les quartiers morts, mais dans les quartiers vivants, parce qu'ils vont pouvoir faire différents travaux, que ce soit de la céramique ou en tout cas des choses pour faire travailler leurs enfants, les ateliers de céramique, les ateliers de tapissier ou de couture. Et je pense qu'il faut remettre le travail de la main dans l'esprit des gens et de nos jeunes pour les sortir des écrans. Donc moi, je suis hyper motivé par rapport à ce qui est en train de se produire.
Des rideaux baissés, des façades noircies, le Cours Tolstoï était devenu l'archétype de la déconfiture commerciale. Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale mis en œuvre par la SVU devrait donc rabattre les cartes. Cédric Van Stevendel, le maire d'Ille-Urbaine.
Disons qu'on est sorti d'une forme d'impuissance ou de pas savoir quel chemin prendre. Voilà, là, il y a un chemin. Tout ne marche pas, ça reste compliqué. L'environnement économique n'est pas toujours simple, mais là, on commence à avoir des premiers beaux succès. On a commencé par une très belle boulangerie juste avant le totem. Ensuite, là, il y a une pâtisserie qui s'ouvre. Il y a maintenant 4 ateliers de créateurs entre céramistes, couture, tapisserie qui sont en train de s'installer. Donc, disons qu'on a enfin renversé une dynamique qui était plutôt de dégringolade de ce Cours Tolstoï et qui est en train de s'inverser. Donc, on est très heureux de ce travail mené avec la SVU.
La recette, c'est quoi finalement ?
La recette, c'est certainement de passer du temps et un peu d'argent, reconnaissons-le quand même, et puis avec des moyens aussi de l'État, hein, puisqu'on est sur un dispositif particulier qui est un contrat de revitalisation de l'activité commerciale. C'est surtout, il y a des gens qui ont pris beaucoup de temps à essayer de comprendre le lieu, de comprendre les besoins, soit des commerçants, soit des futurs artisans. Voilà, donc il faut passer du temps, c'est tout. Enfin, à un moment, il faut que la collectivité se préoccupe de l'activité économique individuelle des gens si elle veut que son tissu commercial fonctionne. Donc ça interroge aussi notre fonction de collectivité, hein. Mais bon, là en l'occurrence on a un outil qui fait ça très bien, qui est la SVU. Je crois que là on a aussi un peu la chance, c'est qu'on a, je crois qu'il y a des gens qui aiment ce qu'ils sont en train de faire. Enfin, il y a quelque chose de très noble dans le très noble au sens très valorisant de redonner de l'activité commerciale à un endroit, d'avoir des retours très vite des habitants en disant ah merci, c'est super qu'il y ait ce type de commerce qui ouvre dans notre rue. Voilà, donc c'est ça qui fait que ça marche. Mais enfin, d'abord, c'est pas gagné, hein, et puis faut pas fanfaronner trop vite, mais on est content de ces premières réalisations.
Pour favoriser l'implantation des nouveaux acteurs économiques, la SVU a mis les moyens. Préemption, rachat de locaux, commercialisation à moindre coût, soit un budget de 10 millions d'euros. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Frédéric Thénault, directeur de la Société Villeurbanaise d'Urbanisme.
On y travaille sur une durée longue. C'est aussi ça l'intérêt de ce dispositif, un contrat de revitalisation artisanale et commerciale sur une durée de 15 ans, qui permet de zoner du temps, qui permet de pouvoir aller en profondeur, d'aller à la fois ce qui concerne l'immobilier, c'est-à-dire venir acheter des cellules commerciales, venir parfois les reconfigurer, les retravailler, les rassembler, et puis pouvoir commercialiser en prenant le temps de choisir des activités qui apportent de la valeur sur le cours, en fonction d'un certain nombre de paramètres, à la fois du service aux habitants, on peut avoir par exemple une boulangerie ou du commerce qui permet d'apporter du service direct aux habitants, mais aussi de venir permettre à la ville de devenir une ville, enfin de retrouver parfois son caractère de ville fabricante, de ville productive, et c'est ce qu'on voit aussi à travers l'installation d'activités artisanales, d'art ou d'artisanat de différents types sur l'ensemble du cours. Et c'est finalement là un peu cette dualité, cette mixité qui rend aussi la balade le long d'un cours qui fait 1,7 km, ce qui est un axe important dans la ville de Villeurbanne, surtout si on la combine à celle qui se poursuit après sur le cours Lafayette du côté de Lyon. Donc en fait, on a ici finalement différentes séquences, et c'est toute cette animation que la SVU fait, avec évidemment en lien très fort avec la ville de Villeurbanne qui lui a commandé ce travail de requalification du cours Tolstoï.
Qu'est-ce qui fait que ça, vous pensez que ça va marcher alors que jusqu'à présent, ces unités de commerciales, elles n'ont pas marché, il fallait s'y faire avec des devantures rouillées, fermées depuis très longtemps.
L'objectif, c'est finalement d'agir aussi par contagion. On vient intervenir sur un nombre de cellules suffisant pour pouvoir créer un effet. Finalement, on voit des synergies qui peuvent se créer entre différents acteurs. Et c'est finalement inverser des synergies qui parfois étaient peut-être un peu néfastes ou qui ne fonctionnaient pas pour réimplanter en fait des énergies positives le long du cours. Je pense que c'est vraiment la plus-value qui est la nôtre. L'ISEU, c'est vrai qu'elle a pour habitude de travailler sur des secteurs qui sont des secteurs naturellement commerciaux, et c'est le cas du centre-ville gratte-ciel à Villeurbanne. Ici, c'est moins vrai, c'est plus vrai, ce n'est plus une réalité d'une attractivité naturelle d'un point de vue commercial, et finalement, il faut trouver une autre forme d'attractivité de ce qu'on appelle la ville à hauteur d'yeux, hein, du pied d'immeuble, parce que c'est un endroit important, c'est un endroit qui est à la fois entre ce qui se passe dans les immeubles et ce qui se passe dans la rue, donc entre l'espace public et l'espace privatif, et le commerce a ce rôle important. Ici, il n'y a pas que du commerce, il y a de l'artisanat, mais par contre, c'est de l'artisanat qui se donne à voir. C'est de l'artisanat dans lequel on projette le regard. Ça, c'est un élément important, parce que ça veut dire que quand aujourd'hui on se promène le long du cours Tolstoï, on y voit des choses ouvertes, que ça soit des commerces dans lesquels on rentre, j'allais dire naturellement, parce qu'on va y chercher du commerce de bouche, ou des, voilà, mais aussi des activités artisanales qui se donnent à voir et pour lesquelles on peut évidemment rentrer et parfois suivre des cours ou être accompagné dans une production qui vient donner en fait aux habitants aussi une autre forme d'appropriation finalement de ces espaces qui viennent prolonger l'espace public.
La Fabrique Tolstoï est un projet en mouvement qui continue donc de se développer et d'accueillir de nouveaux artisans. Si vous êtes un créateur et si vous souhaitez rejoindre cette aventure, n'hésitez pas à consulter le site web dédié fabriquetolstoï.svu.fr. Les résultats de sport du week-end en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy, l'Olympique Lyonnais est allé faire match nul à Lille sur la marque de 1 partout. L'OL féminin s'impose face au PSG 1-0 devant 15 000 supporters réunis au Groupama Stadium. Les Lyonnaises reprennent la tête de la Première Ligue. En basket, en élite, l'ASVEL s'est faite corriger par Cholet à l'Astrobal 101-87. En top 14, le Loup s'est incliné 21-10 à Toulon. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.